Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Tu dévores les journaux, tu te régales de politique, tu salives lorsqu'on te parle d'actualité. Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Tout le monde parle de changement climatique, mais parle-t-on assez de justice climatique? Dans La Mire climatique, c'est trois passionnés de politique qui sont là pour décortiquer avec vous l'enjeu de notre génération sous un autre angle. Parce que la transition énergétique, c'est bien plus qu'une question de réduction des GES, c'est aussi une question de justice. Écoutez Dans La Mire climatique tous les mardis de 11h30 à midi sur les ondes de Chiz 94.3.
Dur le réveil ce matin? Si t'es à l'écoute, c'est que tu t'évites probablement un cours à 8h30 ou un chiffre matinal au travail. Alors étends-toi, repose-toi et laisse l'équipe de l'Allongée t'accompagner pour ce réveil. Ce matin, on te sert une bonne tasse en compagnie de Félix-Antoine Audet, Virginie Simard et Pierre-Olivier Nadeau.
Bon début de journée, bon matin, bon réveil, bon tout ce que vous voulez. Mais surtout, allez un peu promener parce que vous êtes probablement un petit peu plus relax que PO, moi et Virginie, réveillés depuis beaucoup trop longtemps. Ouais. Ce matin, un lundi matin bien difficile, mais oh que ça vaut la peine pour vous accompagner sur les ondes de Chiz 94.3 pour la prochaine heure et demie en information, en nouvelles, météo, circulation, tout ce que vous voulez. Mais avant toute chose, bonjour.
Bonjour.
Bon bonjour matin. À mes chers collègues, comment allez-vous?
Toujours fatigué.
Ouais, toi, PO, t'as plus le droit de chialer là-dessus. Tu es l'artisan de ton propre malheur. Il m'arrive en me disant, oh, je me sais pas à quelle heure je me suis couché. Tu ne sais.
Moi, je comprends pas ces gens-là. Comment ils font?
Non, mais t'as couché tard, déjà, je peux comprendre, mais quand tu t'es levé à 5 heures, je trouve ça étrange. Mais de ne pas savoir à quelle heure tu t'es couché,
J'ai dit aller voir sur mon cellulaire c'était quoi le dernier message que j'ai envoyé, puis il était envoyé à minuit et quart, donc.
Moi, fait qu'il était là avec moi, je dis, je pense que je me suis couché à 11h. Ah, non, 11h et quart, non. Ah, un message à minuit. Ah, non, un message à minuit quart. Ah, fait que non.
Moi, à 10h30, je me suis couché.
Exceptionnellement, pas de mon désir, j'ai dû être couché plus tard qu'à mon habitude, soit environ minuit hier, et je le regrette amèrement ce matin. Amèrement. Mais pour PO, sa petite routine, il était là. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui m'amène à ma petite anecdote de début d'émission. Je me sens mal propre ce matin.
Ah, c'est ça l'odeur.
Je me sens un peu dégueulasse parce que je me suis fait prendre très littéralement la main dans le sac.
Ah.
Très littéralement par mon collègue PO ce matin.
Quel sac?
Moi, je travaille. Je suis employé ici. Je ne suis pas bénévole. Je suis employé à HS 94.3. Et j'ai du pain pour déjeuner le matin. Comme ça, je ne me pète pas la tête chez nous. J'arrive ici. On a un toaster. Je me fais deux toasts, une petite confiture. Merci, bonsoir. Puis, je suis prêt à commencer ma journée. Sauf que là, je sais pas c'est qui d'ailleurs. Je vais faire mon enquête auprès des employés de HS 94.3. Mais il y a quelqu'un qui a décidé de mettre mon pain au congélateur.
C'est sûr que c'est pas pratique.
C'est pas pratique pour faire des toasts le matin. Là, je me dis, bon, je commence à avoir faim, je commence à avoir besoin. Je me dis, ah, il est 6 heures. Il n'y a personne qui arrive de l'équipe avant 7 heures. Je vais manger mes chips et les vinaigres qui traînent dans mon bureau, même si c'est 6 heures du matin. Personne ne va me voir. Pour finalement avoir la face à PO qui débarque dans le bureau 15 minutes plus tard, pendant que j'ai ma main dans mon sac de chips à 6 heures et quart, comme un gros dégueulasse.
Le pire, c'est que quand je suis arrivé, j'ai vu le sac de chips sur ton bureau, puis j'ai fait. Je l'ai pas dit, mais dans ma tête, j'ai fait. Mais voyons. C'est pas un déjeuner, ça, là.
Ben non, c'est pas un déjeuner, mais je me dis, si moi j'ai pas mangé, honnêtement, là, la tête commence à me tourner, puis je commence à me sentir tout vide, tout croche. Ce qui est récent d'une année et demie, deux ans à peu près, là, je te dirais
c'est
qu'avant.
C'est important de déjeuner.
De pas déjeuner, ça faisait partie de ma routine étudiante, ben normale, mais maintenant, si j'ai pas déjeuné rendu à 9h, là, je viraille tout croche. Fait que j'avais besoin de calories, mon cerveau disait, s'il te plaît, fais quelque chose. Puis j'avais pas de pain. Fait que là, à un moment donné, j'allais pas manger la confiture à cuillère.
Le dépanneur est pas ouvert en haut.
Exactement.
Parce que quand je suis passé devant, j'étais comme, ça me prend un café. Puis là, j'étais.
J'étais parfaitement à l'aise avec le raisonnement derrière ma décision. C'est juste le moment où PO est arrivé.
Désolé.
Puis le regard. Hein?
Oui, parce qu'il a rien dit. Moi, je suis regardé.
Des fois, il faut pas rien dire. Le regard,
ouais,
c'est juste
il en disait
assez...
beaucoup. Je ouais. sentais le jugement.
Tu vas jamais savoir ce que j'ai pensé en regardant ce matin.
Tu m'en prêtes-tu? Ben, tu m'en donnes. Tu
ouais, c'est ça. Prêter les chips à l'eau vinaigre, non, ça passe pas. Et de toute façon, là, ça, s'il y a bien une affaire que t'as pas le droit de toucher, c'est mes chips à l'eau vinaigre.
Oui.
On s'achète régulièrement des gourmandises dans l'équipe de Chips, puis on se partage toutes, mais c'est bien connu que la seule chose que personne n'a le droit de toucher, c'est mes chips à l'eau vinaigre.
D'accord.
En tout cas, il y a des choses pas mal plus intéressantes à surveiller aujourd'hui. C'était simplement mon petit partage matinal pour ouvrir cette émission. Faisons le tour d'actualité avec Pierre-Olivier Nadeau.
Âgé de 78 ans, c'est une grosse nouvelle ce matin qui est tombée. Le cardinal Marc Ouellet a démissionné de la tête du dicastère des évêques du Vatican, évoquant la limite d'âge. La limite d'âge est à 75 ans. Mais ça, on peut en douter de Marc Ouellet et sa limite d'âge, puisque dans les dernières années, il a été accusé de deux plaintes concernant des allégations d'inconduite sexuelle, donc qui ont mené à rien.
Je pense que tu l'as dit assez, assez simplement, mais répétons-le, là. Mon œil. Où je comprends, il y a réellement une limite d'âge qui est à 75 ans. Il y avait déjà eu une dérogation, il était rendu à 78 ans. OK. Mais maintenant, là.
La cause principale.
Ouais, ouais. Soyons clairs, là, soyons précis. C'est pas surprenant, puis c'est probablement une bonne nouvelle.
Ensuite, après des grèves au sein de ST Lévis la semaine passée, les parents vont devoir se retourner sur un dixième encore. Des chauffeurs d'autobus scolaires de la grande région de Québec seront en grève lundi. Les parents de 6 000 élèves devront se trouver un plan B. Les listes des centres scolaires qui seront touchés sont le service scolaire de la capitale, des navigateurs, des découvreurs et la commission scolaire centrale Québec.
Près de 6 000 étudiants.
Exact.
Pas d'autobus scolaire ce matin.
6 ans après les attentats à la Grande Mosquée de Québec qui ont coûté la vie à 6 personnes, le porte-parole de la communauté musulmane de Québec, M. Labidi, a salué les actions du gouvernement fédéral et de la Ville de Québec lors d'une cérémonie commémorative hier. Au contrat du gouvernement du Québec à qui il a demandé de revoir la loi 21 et de reconnaître le fameux racisme systémique.
Tour de météo avec Virginie Simard.
Oui, donc aujourd'hui, il fait présentement moins 18, ressenti moins 24. C'est vraiment froid ce matin.
Ouh!
Ouais. Et cet après-midi, on annonce moins 10, ressenti moins 17.
Comme dirait mon oncle, à un spin de Noël, fais pas chaud pour la pompe à l'eau.
Oui. Mon Dieu, j'ai pas le même mononcle, mais c'est correct. C'est ça, fait qu'on s'habille chaudement ce matin.
Bon, à surveiller, donc restez bien au chaud. Moi, je m'étais habillé d'une veste supplémentaire pour aller prendre l'autobus de ville, effectivement. Ça me tentait pas trop de me les geler ce matin. La circulation, ça va relativement bien, je mets des guillemets. Là, ça pourrait être pire du côté de la rive sud, la 20 en direction ouest. Vous êtes dans le rouge avant et après Taniata, un peu dans ces secteurs-là. L'autoroute de la Beauce, ça refoule pas trop loin avant d'arriver sur le pont Pierre-Laporte. Là, vous êtes à peu près à l'avenue des Chutes où ça va refouler. Du côté de la rive nord sur Québec, ben, bien évidemment, là, c'est les coupables habituels, vous les connaissez. Le boulevard Charest entre Duplessis et Henri IV, ainsi qu'entre Henri IV et Robert Bourassa en direction est. Et du côté de l'autoroute de la capitale, en direction ouest, ça va bien. Honnêtement, c'est rare qu'on peut le dire, disons-le. Soyez heureux. En direction ouest, par exemple, c'est un peu plus complexe. Là, à partir de Bourg-Royal jusqu'à le Robert Bourassa, vous êtes dans le rouge. Ça va être complexe. Laurentienne-Nord, léger ralentissement là, dans le secteur de Jean-Talon-Est jusqu'à l'autoroute de la capitale, mais rien de trop catastrophique. Et finalement, Henri IV, là, dans le secteur de Neuchâtel, en direction nord. Oui, c'est ça. Ben, c'est un petit peu au rouge pendant un court tronçon. Mais honnêtement, ça pourrait être pire. Sur les routes ce matin, ça pourrait bien évidemment être pire. Tu l'as mentionné dans ton bulletin de nouvelles, Pierre-Olivier, c'est les commémorations 6 ans, ce qui techniquement ne devrait pas être un chiffre, on va dire, important, guillemets, là, vous comprenez, 6 ans. Mais elle était particulière, cette commémoration-là, parce que c'était pour la première fois fait à l'intérieur même de la mosquée de Québec, là où l'attentat a eu lieu. Et ça va sonner un peu étrange à dire. Je pense que c'est la première année où je me remémore profondément ce qui est arrivé. Ça vient me rechicoter un peu plus que dans les années précédentes. C'était une de mes premières années à Québec, là, je m'en rappelle très très bien. J'étais à l'université dans le cadre d'une activité étudiante externe. Puis on dirait que quand on a commencé à avoir les alertes, là, on était à quelques centaines de mètres, oui. Là, tu sais, j'exagère à peine, on était à deux pouces de là.
Mais quand ça te touche, là, proche...
On comprenait comme pas. Je pense que cette espèce d'incompréhension-là, c'est pas de réaction, puis on était tous des étudiants en journalisme, tous des étudiants qui suivent l'actualité, mais personne, sur le moment, était là, puis ça a pris peut-être une demi-heure, 45 minutes avant qu'on comprenne ce qui se passait, qu'on se mette à paniquer un peu. C'est une soirée vraiment particulière. Je pense que c'est le genre de soirée que les habitants de la ville de Québec, tout comme l'Halloween d'il y a quelques années, a profondément marqué la ville, a profondément marqué les habitants. C'est le genre de choses qu'il faut pas se permettre d'oublier. Je suis content. Je me rappelle encore de la vigie qui avait suivi quelques jours après. C'est un des moments les plus difficiles à vivre que j'ai eu à expliquer. Je la vive, là. Permettez-moi la répétition, là, à Québec, depuis que je suis arrivé. C'était assez traumatisant comme expérience, d'une certaine manière. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent encore, là, comme ça.
Moi, je me mets dans les shorts, à l'ami, à mon ancien coloc. Elle, cette fille-là, il y avait eu la police et un sniper qui avait été dans son appartement. Elle vivait en face de la mosquée.
Oh, wow.
Fait que elle, c'est quelque chose qui marque, oui.
Oui, c'est il y a quelque chose de particulier à te faire réveiller de deux coups de poing dans la porte. Excusez, on s'installe avec le sniper. Merci, bonsoir. Là.
Mais c'est toujours ce genre de situation-là, peu importe là, que ce soit dans une tuerie ou n'importe quelle situation qui marque, quand ça te touche de près ou de loin, personnellement, ça va toujours plus te marquer, peu importe que ce soit de... Moi, je me rappelle avoir été devant un accident de taux vraiment grave devant, puis tu sais jamais comment réagir.
C'est
le corps humain, quand le système nerveux sympathique se met à tout essayer d'analyser. Pourquoi tu ris?
C'est notre scientifique en résidence.
Donc, c'est vraiment... là, je lisais l'article sur ça ce matin dans Le Soleil, puis je sais que c'est pas drôle, mais là, je vois juste la face de Justin Trudeau sur la photo, puis je me dis, est-ce qu'on aurait pu prendre une
ouais, la photo aurait
photo,
certainement pu être meilleure, effectivement. Mais je pense, pour continuer là-dessus, là, mais une chose pour moi qui est importante, puis vous allez me permettre de le faire, là, mais c'est de se rappeler particulièrement. Il y a 6 personnes en particulier dont il faut se rappeler. C'est des noms qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier le nom d'Ibrahima Barry, de Mamadou Tanou Barry, de Khaled Belkacemi, d'Abtelkrim Hassan, d'Azedine Soufiane et Aboubakar Tabti, qui sont les 6 victimes, les 6 décédés de cette attaque. Sans mentionner les 17 orphelins de ces personnes-là, les blessés, qui étaient presque une vingtaine. Puis, dans des accidents graves, dans des attentats ou quoi que ce soit, j'ai toujours l'impression que le nombre de blessés, on s'en fout un peu. tu sais, on regarde, ah, 6 morts ou 10 morts, 19 morts, puis les 27 blessés, on est comme, bah, ces gens-là sont corrects, là. Ils ont
blessures. Mais au contraire, ces gens-là, ils sont marqués à vie, ils vivent avec ce traumatisme-là.
Mais on dirait que blessé, simplement, juste le mot blessé, ça résonne pas dans l'imaginaire, on n'y pense pas. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé dans l'article du Soleil de Simon Carmichael, la photo d'un des blessés qui s'est exprimé. Une main qui est une prothèse, très clairement, on le voit sur une photo assez facilement, en chaise roulante. C'est ça des blessés d'accident, là. C'est ça des blessés d'attentats comme ça. De la même manière que quand on parlait des gens qui survivaient avec des séquelles de la COVID-19 au plus fort de la pandémie, on disait « Ah, mais c'est les gens qui ont survécu, on n'y pense même pas, on pense juste au taux de décès. » Non, non, il y a des gens qui sont affectés gravement. Puis des fois, là, de regarder plus loin que juste mort, c'est encore plus lourd. C'est tout aussi grave. T'as son enfant qui tient le micro, qui est en train de pleurer à côté de lui sur la photo. Une scène absolument déchirante. Et je pense que c'est important encore à ce jour de se rappeler ça, de célébrer cette nouvelle journée fédérale de la lutte à l'islamophobie. Je pense que le meilleur exemple comme quoi la lutte, elle n'est pas terminée, pour terminer là-dessus, c'est que la publication faite par le gouvernement québécois, le gouvernement fédéral, celle de Justin Trudeau, si je me rappelle bien, et peut-être même celle de François Legault, sur le sujet, on a dû éteindre les commentaires. On a dû éteindre la possibilité de faire des commentaires. Je vous laisse comprendre pourquoi, parce que très clairement, là, je pense que vous êtes tous capables de deviner ce qui se passait sous ces commentaires-là. On va se donner le temps, je pense que c'est nécessaire, là, de se donner le temps de respirer un peu, revenir dans l'ordre un petit peu plus positif du jour. C'était nécessaire, mais là, respirons avec Simon Kearney et Jean Leloup sur les ondes de Chiz 94.3. 18h19, bien pile. C'est très satisfaisant là, comme animateur radio sur le mythique de pouvoir dire 19. Pile. La minute pile à la seconde près, là, ça vient me donner un petit papillon chaud.
Ouais, ouais.
J'ai bien du plaisir. Ben, du plaisir. Une personne qui a des mauvais papillons, c'est PO quand il pense aller chez le dentiste, oui. De ce que je viens de comprendre. On vous parlera pas de ses peurs du dentiste. J'ai compris que ça a été fait en long et en large la session dernière. Mais PO m'a envoyé cet article ce matin du côté de Radio-Canada, qui se titule, de la part de la plume de Pierre-Alexandre Bolduc, « Pas de belles dents, pas de greffe au cœur ». C'est assez c'est assez littéraire, honnêtement, là, comme explication que j'ai à vous donner. Mais c'est des histoires comme quoi là, un patient, notamment Bernard Noël, avant d'avoir sa greffe au cœur, devait se faire multitude d'opérations dans la bouche qui vont lui coûter quelques milliers de dollars là, au final. Parce que ça, c'est scientifiquement régulier et normal, de ce que j'en comprends, là, Virginie. Corrige-moi si je me trompe.
Non,
là. C'est toi notre scientifique résidente. Ouais. Mais... clairement, ça peut être dangereux parce que les microbes peuvent se rendre jusqu'au cœur. Il y a un lien direct de la bouche au cœur et c'est un des endroits où il y a le plus de bactéries dans le corps. Ce qui continue à illustrer l'importance, la grande importance des soins dentaires et qui continue donc de soulever la question pourquoi ça coûte l'argent?
Pourquoi ça coûte aussi cher aussi?
Ben, je veux dire, les soins médicaux réguliers coûtent autant cher. C'est juste que on n'a pas. Ben, on les paye d'une autre manière, mais généralement, tu ne les payes pas directement parce que tu as ton assurance maladie, tu as la RAMQ. Pourquoi, du côté des soins dentaires, quand on le voit qu'il y a un lien direct, ne pouvait pas avoir une greffe au cœur s'il ne faisait pas faire ça? Là. Si c'est quelqu'un... Moi, tu me dis, il faut absolument que tu payes quelques milliers de dollars, sinon, pas de greffe au cœur. Je suis pauvre en sortant de là.
Ouais, non, c'est ça.
J'ai plus rien, là.
Mais là, il faut savoir, est-ce que les dommages causés dans la bouche du monsieur, c'était par négligence ou parce qu'il n'y avait pas l'argent nécessaire? Je pense qu'il y a une différence aussi là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... considère que ce n'est pas important aussi l'hygiène dentaire?
Certainement. Puis tu sais, le cas de M. Noël est une raison d'en parler plus qu'autre chose.
Oui.
Mais reste que on le vit tous, là, chacun à notre manière.
Il y a personne qui regarde sa facture du dentiste en se disant « Wow, c'est vraiment pas cher. J'aimerais ça y retourner la semaine prochaine puis avoir encore plus de réparations. »
Mais tu sais, je vais faire mes nettoyages. Comprenez-moi bien. J'ai pas d'assurance.
Mais juste le nettoyage, c'est
cher. Oui, c'est coûteux, mais bon, je me dis un petit peu la base. J'ai quelques opérations à faire moi, dans la bouche. J'ai mes dents de sagesse qui sont dues pour être enlevées.
Oui.
J'ai une greffe de gencive à faire. Et tu sais, des choses qui ne sont pas négligeables. Mais par l'occurrence de j'ai juste pas les moyens de payer pour ces opérations-là au complet. Et deux, ma bouche, pas mal mon métier.
Mais
parler, ça veut dire pas de salaire. Fait que combiner les deux ensemble, financièrement parlant,
bon, les dents de sagesse, moi, je me les ai fait enlever les quatre en même temps, puis il faut que tu sois comme prête à une semaine de temps pas aller travailler, puis c'est handicapant, c'est extrêmement douloureux aussi.
Ben oui.
Puis...
je vais te terminer ton année, mais moi, je me suis fait enlever deux dents, les deux du bas. Puis moi, le lendemain matin, je sais pas pourquoi, je travaillais. Mais j'ai pris mes petites pilules là, qui gèlent un peu. Ouais. Je sais pas si c'était...
Mais je sais que, honnêtement, les anecdotes dépendent vraiment d'une personne à une autre. Là. Mais reste que c'est financièrement, ça, c'est la chose qui reste la même. Si t'as pas d'assurance.
Puis moi, j'ai remarqué aussi qu'en trois ans, là, j'ai vu à peu près trois dentistes différents dans trois villes différentes. Et chaque dentiste... va proposer, puis va me dire des choses différentes. Comme, il y avait un dentiste, il fallait absolument que je fasse une greffe de gencive, c'était full important. L'autre dentiste me dit, ben non, c'est zéro nécessaire, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Fait que je pense qu'il y a comme aussi une confusion pour le client.
Ça, c'est quand même intéressant. Je vais peut-être aller chercher une deuxième opinion, parce que la greffe de gencive me fait peur en tabarouette.
Ben, mon père, il y en a eu genre trois, là. Trois en genre deux ans, là.
Ben,
il va m'appeler, il va me dire c'est pas vrai, mais il y en a eu vraiment beaucoup dans les dernières années.
Okay.
Fait que moi, mon dentiste dans ma ville natale me disait, faut absolument que tu fasses ça. Je suis allée chez le dentiste la semaine passée, Elle m'en a jamais parlé. Elle m'a parlé d'un truc que jamais j'avais entendu parler avant, que c'était donc important de faire une plaque occlusive. Fait que je pense qu'il faut vraiment... Là, c'est
au magasiner
que...
tes dentistes.
Ben, si tu te mets à avoir plusieurs opinions, ça va commencer à coûter encore plus cher chez le dentiste si tu fais plusieurs rendez-vous. Mais non, c'est ça. J'ai remarqué qu'il y avait différentes opinions.
Ah bon?
Ça, ouais, ça. Moi aussi, ça, j'ai remarqué en faisant mes dents de sagesse. Moi, on me disait dans mon dentiste que je vais actuellement, disait de m'enlever les quatre dents. J'ai été chez un autre dentiste puisqu'elle ne les faisait pas. Il me dit non, on va enlever juste les deux du bas. C'est bien correct. Les deux du haut, on va les regarder, mais pas plus.
Ouais, mais en même temps, si tu fais enlever juste les deux du bas, puis qu'après ça, tu dois te faire enlever les... Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est que si tu fais les deux de la shot, tu voudras pas y retourner parce que ça fait tellement mal, puis avec raison. Moi, quand j'ai eu les quatre, ça m'a tellement fait mal que j'ai dit jamais je serais retourner y aller, hein, c'est du beau français.
Ouais.
Pour refaire faire l'opération.
Il y a aussi le fait que, justement, ce qu'on me dit aussi du côté de dentiste, c'est que généralement, plus t'attends pour te les faire enlever, plus ça fait mal.
Ouais, oui. Alors,
fait que là, c'est
ça
fait... encore plus terrifiant pour moi que ça fait plusieurs années qu'ils me disent que je suis supposé les avoir enlevés. Mais bon, fait.
Bien, c'est pas ça.
Mais si t'as pas de douleur, ben... là, je. T'as-tu...
Non.
Bon.
Mais encore une fois, on y revient. Là. Tu te dis ça va bien se passer, mais est-ce que je vais pouvoir me permettre d'y aller dans les prochaines
années? Ah, ça coûte cher, là, se faire enlever les dents de sagesse. C'est des milliers. Ben, c'est dans les 1000 $, là.
Je me rappelle plus honnêtement du coup par cœur, là, mais je serais pas surpris que c'était effectivement dans ces salaires-là. Là. Mais c'est toujours ça la question. Est-ce que je peux me permettre de ne pas travailler pendant une semaine et de payer l'opération? Probablement pas avec mon emploi actuel, probablement pas dans un avenir à court terme non plus. Puis c'est la réalité de beaucoup de gens. Et t'as beau. Justement, tu parles du fait qu'on dévalorise les systèmes dentaires, les soins de santé dentaires. Il y a peut-être aussi une réalité de ben, j'ai pas les moyens de le faire, fait que j'irai pas. C'est un peu ça. Là. C'est un peu ce que tu vois aux États-Unis. Puis, comprenez-moi bien, je veux pas comparer même les pires parties de notre système de santé à celui des États-Unis. Là. Mais aux États-Unis, t'as des gens qui meurent d'une grippe parce qu'ils ne vont pas voir un docteur, ne serait-ce que par le coût, puis le risque de pas travailler, puis de perdre des revenus parce que c'est rapidement handicapant. Mais c'est ça, là. Puis, on en vient à dévaloriser notre santé, ce qui amène certaines complications, puis on le voit, puis on sous-estime l'importance des soins buccaux parce que ça a un impact sur tout le reste du corps.
Mais on pense que c'est esthétique, mais au final, c'est purement aussi relié, on l'a vu au cœur, puis j'ai l'impression que depuis toujours, moi j'ai toujours vu puis la santé dentaire comme un luxe.
C'est vu comme ça.
Ça devrait pas.
Exactement. Parlant de ce qui ne devrait pas être un luxe, quand n'est pas non plus d'ailleurs, éducation au cégep, pauvre Bernard-Drainville, j'ai l'impression que ça fait une semaine et demie, ben en fait ça fait une semaine qu'on est revenu en onde, j'ai l'impression qu'à tous les jours on parle de son ministère, il doit commencer à avoir besoin d'une dose de Tylenol régulière assez intensive là, de son côté. Parce que, mon Dieu, qu'il s'en passe de l'actualité dans le domaine de l'éducation. C'est un dossier dans la presse qui est sorti ce matin, qui parle des cégepiens qui ne sont pas pressés d'obtenir leur diplôme. C'est pas un phénomène qui est nécessairement nouveau. C'est un phénomène qui empire. Alors que c'est à peine, c'est même pas un tiers des cégepiens qui obtiennent leur diplôme dans les temps prévus. Donc 2 ans pour le préuniversitaire, 3 ans pour une technique. On apprend que le taux est présentement rendu à 32 % pour la dernière cohorte, celle de 2017-2020, que le taux de diplomation est quand même pas nécessairement catastrophique au cégep, on parle de 64 %, mais dans les années prévues, c'est de moins en moins atteint chez les étudiants. Et honnêtement, j'ai de la difficulté à croire qu'on peut être surpris. De plus en plus... tu dois travailler en même temps. De plus en plus, il y en a qui s'éloignent de chez eux pour une technique particulière, pour un programme particulier. Et les jeunes, maintenant, sont de moins en moins ouverts à prendre des décisions qui vont affecter négativement leur santé mentale, autant à court qu'à long terme. À court terme, de se surcharger avec activités parascolaires, travail, plus école. Et à long terme, de choisir une carrière qui ne les rendra pas.
Je suis tout à fait d'accord.
Avant, et c'était peut-être un petit peu plus pressant, il y avait peut-être ce manque de travail, c'est une réalité complètement différente que nos parents ont eu à vivre. Eux, c'était de se battre pour réussir à trouver un emploi puis le garder, là.
Ben, aujourd'hui, c'est les employeurs qui se battent pour nous avoir, là.
Exactement.
Nous, on n'a pas besoin, on fait nos études puis on a probablement un emploi. Je dis pas c'est partout comme ça, là, dans tous les domaines, mais il y a de l'emploi, là.
Certainement. Puis on a un peu plus le choix. Il y a un peu plus d'ouverture partout qu'il y en avait auparavant. Avant, c'était littéralement une des choses que tu devais te demander au cégep ou à l'université, là. Est-ce que je vais avoir un emploi en sortant de là? Est-ce que c'est un milieu où il y a de la place? Parce que c'était la réalité. Maintenant, t'as pas à avoir cette inquiétude-là, là. C'est pas compliqué. Peu importe en quoi t'étudies, ils vont être contents en maudit de t'avoir. Donc, peut-être un peu plus de patience, parce que c'est ce qu'on réalise aussi, là. De plus en plus d'étudiants changent de cap, recommencent un nouveau programme ou ne termine pas un programme pour en faire un autre. Et c'est particulièrement prévalent chez les gens qui font des techniques. Parce que, justement, on cherche autant à court terme, oui, qu'à long terme, à prendre les décisions qui nous rendent heureuses. Est-ce que c'est un problème, honnêtement? Je ne sais pas. J'ai de la difficulté à nécessairement établir ça comme un problème. Je vois peut-être plus ça comme simplement prendre son temps de se choisir là-dedans. Je sais que c'est ton cas, Virginie. Là, t'as fait ta technique de 3 ans en 4 ans?
4 ans et demi, 5 ans. Ça a pris extrêmement beaucoup de temps.
Bon, pourquoi?
De prime abord, c'est que la pandémie est arrivée à peu près à la milieu de ma technique et j'ai abandonné l'école. Parce que ça me demandait trop de travail. J'étais pas capable de faire l'école à distance. Je travaillais dans une pharmacie. Là, c'était l'enfer au début en pharmacie. Je me suis mis à travailler temps plein. Et quand ça s'est calmé, j'ai retourné à l'école. Mes parents étaient bien contents. Ils pensaient pas que j'allais retourner parce que quand tu décroches, les chances que tu y retournes. Mais c'est aussi que la charge de travail était excessivement élevée. Quand tu fais une technique, là, je suis pas en train de dire que je suis meilleure que personne, que tout le monde.
Oh non, certainement pas.
Mais tu apprends un métier. Fait qu'on parle pas juste de voir la base, là. Tu apprends vraiment un métier. Après ça, tu rajoutes les cours de base, que ça, j'ai une opinion vraiment. En tout cas, je trouve que c'est. Il y a des trucs qui sont tellement pas nécessaires dans certains de ces cours-là, comme les cours d'éducation physique, là. C'est. Qui sont. Obligatoire de faire un cours de badminton pour avoir ton diplôme. Ça va pas faire de moi une meilleure technicienne de laboratoire.
Non, mais je pense qu'il y a aussi l'enjeu. Tu sais, la même manière que le français fait pas nécessairement de toi une meilleure technicienne
français,
de laboratoire.
Je vois l'importance de ça, mais il y a certains cours que.
Mais prôner la santé physique, je trouve ça quand même assez important.
Moi, j'avais pas. Mes cours que j'ai faits, c'est des cours de massage, là. C'était pas l'affaire super physique, là.
C'est une habitude de vie.
Ouais. Mais en tout cas, c'est pour dire que je devais faire mes cours de base, je travaillais et j'habitais en appartement. Et là, c'est tous des facteurs que tu mets ensemble, ça rend le tout tellement compliqué de faire ça. Fait que c'est sûr que les gens qui arrivaient à faire la technique en 3 ans, c'était du monde qui travaillait pas, qui habitait chez leurs parents.
Oui.
Puis c'est là que je trouve ça triste parce que je me suis souvent fait rire de moi que ça m'avait pris autant de temps faire ma technique puis tu sais aujourd'hui j'ai quand même honte de dire que ça m'a pris 4 ans et demi mais au final
mais t'es en grande majorité là
mais c'est ça mais on commençait on était 80 on graduait on était 30 là il y avait tellement d'abandon là dans ce programme là puis il y a tellement de gens qui ont abandonné le cégep mais en même temps c'est parce que quand tu rentres la majorité de la clientèle au cégep c'est les gens qui sortent du secondaire, puis on le dira jamais assez, à 17 ans, on sait tellement pas ce qu'on veut faire.
C'est le point, le gros point final.
Puis le monde
là,
va s'inscrire par réflexe en sciences humaines ou en sciences nature, les programmes les plus populaires. Et là, c'est quand même très vague, puis ils vont changer d'idée encore.
Parce que le changement de cap est une des raisons majeures pour laquelle on se retrouve à avoir des durées d'inscription au cégep plus longues que la normale. Puis effectivement, quand tu demandes à un jeune de 17 ans de choisir sa carrière, ça se peut que ça arrive, surtout dans un marché où tu peux te le permettre, comme maintenant. On va prendre une courte pause publicitaire. Au retour, on apprend l'histoire de l'alcool en ce début, bientôt, de mois sans alcool de février avec Pierre-Olivier Nadeau.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussions, analyses, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Cheese 94.3 avec Cédric.
Et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Cheese pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du réchaud sur les ondes de Chise 94.3.
Le temps d'un ginto, c'est le moment parfait pour décompresser avant le week-end. Les vendredis de 14h30 à 15h, joins-toi à Rosalie et ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des gintos et ben du fun, voici ce qu'on te promet pendant une demi-heure à toutes les semaines. Le temps d'un ginto, tu veux pas manquer ça.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Toujours un peu mêlé. D'habitude, on a notre écran de télévision avec la météo, vrai, hein? L'heure, les émissions qui s'en viennent. Je l'ai pas. Fait que permettez-moi d'être un peu plus mélangé qu'à l'habitude. Quoique la barre est déjà assez haute, mais ce sera encore plus. Donc, indulgence sera le mot-clé pour cette émission. Faisons un petit tour d'actualité avec Pierre-Olivier Nadeau.
Âgé 78 ans, le cardinal Marc Ouellet a démissionné de la tête du dicaster, un mot très compliqué à dire.
Oui, c'est pas simple.
Des évêques du Vatican évoquant, entre guillemets, la limite d'âge. Donc, la limite d'âge étant de 75 ans. Mais rappelons-nous, il y a quelques jours, on apprenait que le cardinal avait reçu en 2020 une deuxième plainte concernant des allégations d'inconduite sexuelle.
Mon œil.
Après les grèves de ST Lévis, les chauffeurs d'autobus scolaires de la grande région de Québec seront en grève lundi. Les parents de 6000 élèves devront se trouver un plan B. Les listes des centres de services scolaires qui seront touchés sont le centre de services scolaires de la capitale, des navigateurs, des découvreurs et la commission scolaire centrale Québec.
De souvenir, capital et navigateur, c'est une journée pédagogique aujourd'hui, donc les parents s'en sauvent un peu, mais la grève qui devrait durer une semaine, donc ils vont avoir malheureusement leur tour.
Des chiffres ultra intéressants ont été révélés par la firme de sondage Somme et le Soleil, comme quoi 36% des citoyens de la région métropolitaine prévoient
prendre le tramway
plus souvent ou à l'occasion, ce qui fait 36%. C'est pas beaucoup.
On va y revenir, là, puis c'est un peu comment la mairie a réagi. C'est beaucoup dans les circonstances. Je vous expliquerai rendu là.
Exactement.
Faisons un petit tour de météo avec Virginie Simard.
Bonjour! Je savais pas que
Allô, il fait beau!
Il fait présentement 18 degrés, moins 18 degrés dans la ville de Québec, ressenti moins 23. Et lundi après-midi, il va faire moins 18, ressenti moins 16, avec quelques flocons de neige.
C'est si beau.
Allô? Je sais plus pourquoi.
C'est correct, Virginie, on t'aime pareil. Mais honnêtement, c'était très mignon et assez beau. Du côté de la circulation, ça continue de s'améliorer du côté de Québec. Honnêtement, là, c'est presque au vert partout présentement. Du côté de la Rive-Sud, pas presque, c'est au vert partout. Rien à signaler. Évidemment, vous connaissez le grand coupable habituel. C'est pas mal le seul endroit qui reste à surveiller. c'est du côté de Capital. Il y a un accident, un véhicule en panne, en fait, qui est tombé en panne il y a quelques minutes, 6-7 minutes, du côté de l'autoroute de la Capitale à la hauteur de Laurentienne en direction ouest. Ça cause la fermeture d'une voie sur trois. Le trafic qui s'en va jusqu'à passer Henri Bourassa. C'est pas si pire, c'est jusqu'à Laurentienne, mais il reste quand même ça. Il y a un petit peu de trafic à l'approche d'Henri IV, du côté à l'approche de Robert Bourassa, excusez-moi, du côté de Capitale en direction est. Sinon, vous devriez être en bonne et due forme, là, capable de vous rendre au travail sans trop de problèmes. On est le 30 janvier, déjà la fin du mois de janvier qui approche. C'est donc le mois de février qui cogne nos portes et il y a une tradition de plus en plus populaire lors du mois de février, le mois sans alcool, 28 jours sans alcool, et qui continue de se développer. Et parce qu'on ne peut jamais avoir trop de connaissances, Pierre-Olivier s'est proposé pour faire avec nous le tour de l'histoire de ce breuvage alcoolisé.
Oui, mais d'où ça vient cette boisson-là? Cette boisson qui a traversé les époques, pas comme la Four Loko.
C'est une époque très nichée à laquelle j'ai survécu.
Et qui se retrouve à chaque soirée universitaire, cette boisson qu'on boit pour socialiser. Pour avoir une boisson alcoolisée, on va commencer par comment on fait l'alcool. Pour avoir une boisson alcoolisée, il faut faire un processus de fermentation qui consiste à ce que la levure mange les sucres d'un fruit, ce qui va créer de l'éthanol.
Là, assure-toi bien de vérifier tes faits, là, parce que j'ai l'impression que Virginie est à l'écoute. Là.
Parfait, je vais...
Jusqu'à date, vous dites la vraie réponse.
Good. Puis la découverte de ce processus-là a probablement été faite par hasard. Des levures qui sont tombées sur un fruit à moitié découpé, bref. Et les premières traces connues de ce breuvage seraient en 700 000 avant Jésus-Christ en Chine. Et ça veut dire que ça fait 9000 ans que l'espèce humaine se dit qu'elle va arrêter de boire après un lendemain de veille de Four Loko.
Attends, juste pour être sûr que c'est bien une erreur, t'as dit 700 000 ans. Là.
Oh, 7000 avant. Okay, désolé. Oui, 7000 ans avant Jésus-Christ en Chine. Et pour revenir à nos boissons alcoolisées, la première boisson aurait été constituée de riz, de millet, donc un céréal, de raisin et de miel fermenté.
C'est pas avec du riz que tu fais du saké?
Entre autres,
l'historique du saké qui est probablement un des plus vieux alcools là, au monde.
Au fil du temps, presque toutes les régions du monde avaient leurs propres ingrédients pour façonner cette délicieuse mixture. Et c'est comme, dépendant du territoire, de la région, de quel fruit qui poussait, on adaptait le breuvage alcoolisé. En moyenne, les boissons alcoolisées à l'époque avaient une concentration de 13% de la limitation dans le processus de fermentation. Ce n'est qu'au 9e siècle que la population a pu augmenter ce pourcentage grâce à la découverte de la distillation, oui, je vais y arriver.
J'ai eu un peu
de difficulté, qui consiste à faire bouillir une boisson alcoolisée, puisque, étant donné que l'alcool s'évapore avant l'eau, on requiert donc seulement l'alcool, ce qui nous a permis de faire du fort. Et peut-être la Four Loko, mais ça...
Avec le temps, on y est arrivé.
Avec le temps.
Le summum de l'évolution humaine, ça, la Four Loko.
Et ce spiritueux-là ont permis plusieurs choses. Au début, il était utilisé à des fins médicales. Par la suite, il s'est devenu une marchandise très importante. Aussi, c'est devenu le cognac, entre autres, est devenu un spiritueux qu'on amenait dans nos navires quand on voyageait vers les Amériques pour conserver l'eau le plus longtemps possible. Et comme aujourd'hui, il va y avoir un débat sur les effets positifs ou négatifs de l'alcool.
Attends un peu. Excuse-moi, je suis désolé. Il faut juste que je revienne un peu en arrière. On utilisait le cognac pour conserver l'eau?
Oui, ça avait un... comment je pourrais dire? Ça gardait l'eau plus longtemps. Il y avait moins de bactéries à l'intérieur.
Mais ça a un effet stérilisant. Là.
Stérilisant, okay, merci, ouais. Scientifique résident. Ça cherchait.
Mais là, écoute, je te pose une question. Justement, on a notre scientifique là,
ça
à faire à ça.
Là. Je ne sais pas quoi répondre.
Je suis purement dans la spéculation, mais il me semble que l'alcool a un effet déshydratant.
Oui.
Oui.
Fait que si tu mélanges ça avec de
c'était
l'eau...
C'était seulement une petite dose, en petite quantité. On mettait pas le baril de cognac avec le baril d'eau.
Mais c'est ça, là, moi j'imaginais un 50-50, là, c'est ça, oui. C'est un
shooter,
on the rock fondu, là.
L'alcool faisait aussi débat sur les effets positifs ou négatifs de l'alcool à travers le temps, mais une chose est sûre, partout dans le monde, la consommation excessive était considérée néfaste. Certains médecins grecs considéraient le vin bon pour la santé et les philosophes attestaient de ses qualités créatives. Très créatif, l'alcool.
Oui, c'est très créatif. C'est tellement... Surtout qu'on en parle beaucoup là, dans les derniers temps, notamment avec les recommandations du Conseil canadien. Puis, je pense qu'on met de plus en plus en lumière notre relation à l'alcool, qui est de plus en plus particulier. Puis votre génération est la génération, historiquement, qui consomme le moins d'alcool de l'histoire. La génération
vrai, ça
Z.
Doit faire 3 mois, j'ai rien vu.
C'est assez frappant, la quantité de jeunes de la génération Z qui ne boivent pas ou qui boivent très peu.
On prend d'autres choses.
Oui, effectivement. Non, mais c'est vrai. Il y avait un article dans le 24 heures, tout récemment, là, la semaine dernière, qui en parlait, qui parlait de la consommation d'alcool et justement que, je pense, c'était 60 ou 69 % des jeunes de la génération Z qui disaient préférer le cannabis à l'alcool.
Mais pas juste ça. Moi, j'ai expérimenté beaucoup dans ma vie. Puis honnêtement, je pense que les pires fois où j'ai été le plus pas glamour, là, ça a été sur l'alcool. Ouais. C'est une drogue, là. C'est vraiment...
Ah, c'est au sens scientifique de la chose. C'est une drogue, là. Il y a pas de questionnement à avoir là, là. Mais de réaliser effectivement que du côté de la génération Z, avec plus d'informations, plus un désir semble un petit peu plus fort de s'occuper de sa santé que les générations auparavant, l'alcool commence à être délaissé. Mais de voir la réaction générale qu'il y a eu quand on a eu cette déclaration-là, que bon, l'alcool, même en petite quantité, n'était pas positive, de voir l'espèce de montée au rideau... De gens offensés, qu'on puisse dire des choses comme ça. Hey, on fait juste donner une information.
Mais en même
puis
temps,
on vient déjà là, se frustrer.
Parce qu'il y a tellement de types aussi d'alcool différents qui vont donner des effets. Je veux dire, c'est sûr que si tu prends que de la bière, là, on sait, le houblon, c'est pas les levures pour aussi. Ça va faire gonfler ton ventre, mais je sais que.
De quoi tu me parles?
Je sais que ça a été prouvé aussi qu'un verre de vin rouge peut avoir des effets bénéfiques sur le corps humain. Mais là, c'est sûr qu'on rentre avec toutes les boissons de malt qui sortent de plus en plus avec des saveurs funky de framboise bleue. Puis ça peut avoir... On est loin de l'alcool de base où qu'on faisait juste distiller des patates. Là,
c'est de plus en plus complexe, effectivement. Mais l'alcool qui remonte donc jusqu'à 7000 ans plus tôt, 9000 ans plus tôt, à moins 7000 les Chinois. Donc, je change complètement le sujet. Vous me permettrez pour poursuivre, parce qu'honnêtement, avoir le temps défiler, on n'a pas besoin d'aller en pause pour continuer. Tu l'as mentionné dans ton bulletin de nouvelles, Pierre-Olivier, à savoir qu'un sondage qui est sorti ce matin par la firme de sondage Somme Le Soleil parle que 4 personnes sur 10 environ dans la ville de Québec se disent prêtes à monter, vouloir monter à bord du tramway dès qu'il sera inauguré. C'est sûr que c'est un peu particulier, là, on en parlait hors d'onde, parce qu'une bonne partie de la population qui va prendre le tramway, qui veut prendre le tramway, c'est des étudiants.
Oui.
Des étudiants qui habiteront probablement plus dans ce secteur-là, dans les secteurs de passage du tramway, et qui n'iront probablement plus à l'université dans 5 ans, les premiers passages prévus du tramway. Mais reste que c'est intéressant quand même. C'est même pas d'ailleurs, ça m'a surpris. C'est même pas la population qui est la plus au risque de prendre le tramway selon le sondage, les étudiants. Il s'agit des personnes âgées et des jeunes travailleurs, 25 à 34 ans, qui sont les deux populations qui ont montré le plus de désir de prendre le futur tramway. On est à 40% dans la ville de Québec, tu l'as mentionné, 36% dans la région métropolitaine au grand complet, selon la firme SOM. Somme. Plusieurs témoignages, évidemment, là, d'étudiants qui sont bien à l'aise. Là, c'est dans le soleil que vous pouvez lire ça. Mais on voit les gens qui habitent dans le secteur du tramway, ils sont plus nombreux à vouloir passer. Plus t'es loin du secteur du tramway, moins tu veux. Tu as des choses relativement normales. Ce qui... m'a un peu surpris, parce que je me rappelais pas avoir déjà vu un témoignage de Bruno Marchand aussi direct là-dessus, même si pour moi, ça me semble naturel et normal. On a dit, là, du côté de la ville, en réponse à ce sondage-là, que pour eux, un taux d'approbation de 40% et plus, c'était au-delà des attentes. Je sais pas si c'est avec vous que j'en ai parlé la semaine dernière.
Non, je crois pas. Non.
Ça doit être avec une autre émission. Mais la réalité, c'est qu'historiquement, dans toutes les villes où on a installé un tramway, là, il y a un dédain profond de la population avant l'installation de ce mode de transport-là. Comprenez-moi bien, j'ai des questions comme tout le monde sur le tramway. Il y a des interrogations, des craintes. J'habite près de la rue Cartier, je veux pas voir les commerçants fermés comme ça a été le cas sur route de l'église quand il y a eu tous les travaux qui ont été entrepris il y a quelques années. Je m'ennuie encore des ailes de poulet de chaque. Mais reste que statistiquement, historiquement, on l'a vu dans toutes les villes qui ont un tramway, que une fois que le tramway est installé, il y a bien des gens qui en voulaient, qui ne voulaient rien en savoir, qui finalement se disent « Ah, tabarouette, c'est donc bien plaisant, cette affaire-là. C'est donc bien agréable. »
Ben, les gros projets font peur.
Ben oui, c'est bien normal. Là. Je veux dire, pensez-vous que les taux d'approbation vont pas chuter? Même moi, il va y avoir des bouts où je risque de sacrer dans mon auto quand je vais être pris dans le trafic parce qu'on est en plein travaux sur Laurier ou sur René Lévesque. C'est sûr. C'est normal. Ça, c'est la nature humaine. Là. C'est complètement normal. Moi, pour moi, c'était clair que la ville, à dans les murs fermés, à l'abri des journalistes, c'est toujours ça qu'on se disait. On se disait, hey, on est à 40% à tabarouette, on est chanceux d'être à 40%. C'est un peu plus difficile d'arriver et de dire ça en public et de dire, ah, oh, bon, on s'en fout que 60% de la ville n'aime pas ça. Il y a 40% qui aiment ça. Ça se défend un peu moins bien, mais là, on l'a vraiment dit du côté de la mairie de Québec. C'est un peu normal. Est-ce que vous pouvez être en désaccord? Certainement. Mais, encore une fois, si on ne connaît pas son histoire, on est forcé à la répéter. Puis c'est un peu ça qui est en train de se passer du côté de Québec, présentement. Je poursuis dans le transport en parlant d'une nouvelle taxe. Ouais, on n'est pas assez taxé. Pour les propriétaires de véhicules avec immatriculation à Québec. Puis, tu sais, je fais le petit commentaire sur on n'est pas assez taxé, mais est-ce que ça pourrait être pertinent? J'aurais tendance peut-être à croire que oui. Il y a plusieurs municipalités qui seraient prêtes à emboîter le pas de Montréal. Qu'est-ce qu'ils font à Montréal? Qu'est-ce qui se passe à Montréal? L'immatriculation un peu partout à travers le Québec a un frais de 30$ supplémentaire qui est rajouté. C'est une taxe qui est servie, qui sert à notamment financer le transport en commun dans les villes où elle est perçue. Du côté de Montréal, on a un 45$ supplémentaire qui est perçu du côté de l'immatriculation pour les véhicules qui sont immatriculés là-bas. Donc, au total, vous pouvez compter 75$. Ce qui commence à être un petit peu plus salé, mais on le fait justement parce que la demande, la nécessité pour le transport en commun à Montréal est un peu plus en demande, notamment la réfection, les pistes cyclables, les autoroutes cyclables, la quantité de bus qui est assez énorme, le métro, etc., etc., etc. Là, du côté de Québec, de Lévis, on apprend que c'est une des mesures qui est envisagée présentement. Je te vois réagir depuis tantôt, Virginie. Et...
Mais c'est parce que j'ai habité à Montréal avec un auto, puis je n'étais même pas au courant que... c'est pas moi qui payais ça, là. Fait que c'est pour ça que je savais pas ça, je pense.
OK, bon. Ben...
J'étais choc, j'étais comme, hein, mon Dieu.
Ben, est-ce qu'elle est encore immatriculée à Montréal?
Je sais pas. Faudrait appeler mon père. C'est lui qui fait tout, là. Si okay. Il n'était pas là, là. Ouais.
T'es encore étudiant, je te le pardonne. Je te le pardonne. Mais on envisage donc d'y aller avec cette méthode du côté de Pierre-Luc Lachance, vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec, entre autres, là, avec le maire Bruno Marchand. Mais c'est aussi, en général, plusieurs options qui sont sur la table. Essentiellement, il n'y en a pas grandes qui ne sont pas observées, à part la taxe sur l'essence. Youf! Premièrement, parce qu'on réalise bien que la taxe sur l'essence ne serait pas pertinente dans une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années quand tous les véhicules neufs qui vont être vendus au Québec sont électriques. À long terme, c'est pas nécessairement la meilleure solution. Une qui m'a un peu surpris, puis peut-être même un peu inquiété, là, je pense pas qu'elle serait très, très, très populaire, une taxe sur le kilométrage. Donc, que ce soit par l'aide d'un capteur, l'aide d'un de caméra, de taxer selon le nombre de kilomètres parcourus à chaque année par un utilisateur.
Mais rendre ça, mettre ça en place de manière massive, là, y a pas juste, on n'est pas juste 10 000 à avoir une voiture, là, ça doit être compliqué.
Ben, c'est ça. Déjà, la mise en place me semble un casse-tête monstrueux logistique. Là. Je vois difficilement, ça, c'est un de mes premiers questionnements.
L'une des options, ça serait de dire, bon, vous avez fait combien de kilométrages cette année, mais les gens vont mentir.
Ben, exactement, parce que du côté de Pierre-Luc Lachance, il mentionne. Une des options, ce serait l'autodéclaration. Bonne chance ouais, avec l'autodéclaration. Oh, moi, 3 kilomètres cette année, là. 3 gros kilomètres.
Ouais, en fait, j'ai fait un plein, là.
Ah, ouais, j'allais juste à l'épicerie une fois ou 3 mois, aller-retour, puis c'est tout. Puis être à côté, là, l'épicerie, là. C'est tout.
Moi, je vois surtout le danger de certaines personnes qui pourraient dire, mais là, on va m'espionner, savoir toutes les kilométrages que je fais, mais là, j'ai envie de dire, on met ton téléphone, il fait déjà tout
ça. Oui, c'est ça,
là,
exactement. Mais tu regardes ça, puis il y a des gens qui seraient pénalisés. D'une façon disproportionnée. Là.
Moi, je trouve ça... Pour prendre l'exemple de lui, parce que je parle tout le temps de lui, mon père, il fait 1h30 aller, 1h30 retour. Il passe de Grenville à Montréal. Ça va lui coûter une fortune. Hein. Genre de kilométrage, c'est comme...
Puis là, après ça, si tu détermines ça comment, qu'est-ce qui est acceptable, tu sais, je pense à quelqu'un, parce que je pense que ce serait juste dans la région de Québec, là, métropolitaine de Québec. Fait que probablement que une partie de la 20, il serait pas kilométré là-dessus, mais reste que quelqu'un qui... Et livreur avec sa propre auto. Parce que certains restaurants, oui, vont te donner l'auto. Non, fait que c'est le restaurant va être taxé, mais si t'es livreur avec ta propre automobile, comment tu fais comment tu fais pour débarrasser? Est-ce que t'as des livreurs qui vont juste comme mettre une étiquette de Domino's sur leur auto, même quand ils sont pas en train de livrer pour éviter certaines taxes, parce que ça va être calculé?
Il va y avoir de la fraude qui va se faire d'une manière ou d'une autre, là.
Tu sais, t'es chauffeur Uber. Excusez.
C'est ta job de faire ça, de te promener, de faire du kilométrage.
Déduction, OK, mais généralement, là, à un moment donné, ça commence à devenir complexe. Les exceptions, les déductions, les gens qui vont être frappés de façon disproportionnée. Une mère monoparentale qui doit aller porter ses enfants à mille et un endroits, soudainement, quand tu dois considérer si ton enfant va faire une activité parascolaire, t'as plus juste à considérer les coûts de l'activité parascolaire. Faut que tu considères que d'aller le porter, en plus du gaz, ça va te coûter quoi?
Mais déjà qu'être propriétaire d'une voiture, ça coûte cher au niveau de l'essence, des assurances, des plaques. Là, si on ça commence à faire un bon montant. Là.
Puis honnêtement, probablement que ce genre de taxe-là serait... Tu sais, ça serait un dixième de cents le kilomètre, là. Ça serait même pas un cent le kilomètre. Puis qu'au final, ça reviendrait au même qu'une taxe de 45 $ par année. Mais mentalement, là... Il me semble que c'est un peu moins applicable puis un peu moins acceptable. Même si je suis le premier à vouloir qu'on puisse financer notre transport en commun de façon plus efficace.
Parce qu'à chaque fois que tu vas aller quelque part, tu vas te dire « Ah, mais là, je fais du kilométrage de plus. Ben, est-ce que c'est nécessaire d'aller là? » Ça commence
d'une certaine manière, est-ce qu'on pourrait se poser la question un petit peu plus des fois? Certainement. Est-ce que c'est la bonne manière de le faire? Je doute fortement que ça va avoir l'effet escompté. Avant de terminer, juste le mentionner quand même, parce que je me doute que certaines personnes qui peuvent se poser la question, c'est pas en lien avec le tramway. Parce que bon, c'est pour financer du transport en commun, pas du transport, là il y a la différence, structurant. Donc un transport lourd comme ça, c'est vraiment une enveloppe qui vient presque exclusivement du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial. On parle vraiment plus là, du côté des transports en commun, la ST Lévis du côté de Lévis, le RTC du côté de Québec, de pistes cyclables, etc., d'aller pour les piétons, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment pas là, relié aux 4 milliards et ouais, plus de dollars reliés au tramway. C'est vraiment un autre enjeu complètement qui cause cette possibilité d'avoir une nouvelle taxe liée à la circulation du côté de Québec. On va prendre une pause publicitaire au retour. Notre scientifique désigné, avec la seule aussi qui mérite d'avoir le titre du côté de l'émission de l'allongée de 694.3, Virginie Simard nous parle des avantages de la lecture sur le cerveau humain.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Droit de parole, c'est l'émission de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval dans laquelle on reçoit des comités de notre association étudiante, des professionnels et des membres de notre faculté afin de démystifier les divers domaines du monde juridique. Tu as toujours voulu savoir si les études en droit étaient dignes de Legally Blonde? Tu te demandes si les avocats ont vraiment une carrière comme celle que tu vois dans Suits? Tu es simplement intéressé par l'actualité et le domaine juridique? Tu es donc invité à la barre pour écouter Droit de parole tous les jeudis de 13h à 14h sur les ondes de Chiz 94.3.
monde parle de changement climatique, mais parle-t-on assez de justice climatique? Dans la mire climatique, c'est trois passionnés de politique qui sont là pour décortiquer avec vous l'enjeu de notre génération sous un autre angle. Parce que la transition énergétique, c'est bien plus qu'une question de réduction des GES. C'est aussi une question de justice. Écoutez Dans la mire climatique tous les mardis de 11h30 à midi sur les ondes de CHIZ 94.3.
Aux très chers auditeurs du CHIZ 94.3, savez-vous que la musique est la seule drogue qui ne peut pas vous tuer? Alors venez goûter à la pilule chilule. C'est de la synth-pop, de la dream-pop, de l'indie et même des pépites méconnues de la France et de l'outre-Atlantique. Chilule pilule, c'est une cure bien méritée. Tous les mercredis, de 22h à 23h30, sur les ondes du CHIZ 94.3 FM.
C'est quoi exactement du rock? De la musique d'une autre époque, des sons provenant d'un garage tout sale, une alternative à la musique pop, aucune de ces réponses et toutes ces réponses. Le rock, ça change, ça bouge, ça brasse, mais surtout, ça surprend. Si tu veux rebooter ta définition de ce genre musical, écoute Rock Ta Case. Chaque épisode, on vient décortiquer un thème avec des chansons qui méritent d'être entendues. Pour trouver des artistes différents et pertinents, écoute Rock Ta Case un mardi sur deux à 14h sur les ondes de CHIZ 94.3.
Bonsoir, chérie!
Bonsoir!
J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc?
Non, non, non. Ah, chérie, j'arrive! Ce qu'on sort du four, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh, ben!
C'est si doux comme retour de pause.
Oui.
Je me sens dans un petit cabaret. Bon matin.
Je me sentais pas assez endormi, là.
C'est ouais, c'est ça. PO est en train de tomber dans un coin à chaque fois qu'on parle la musique.
J'étais avec vous, j'étais avec vous.
Et 9h, bien pile, sur les ondes de CHIZ 94.3. Vous écoutez l'allongée en compagnie de Félix-Antoine Audet, Virginie Simard, Pierre-Olivier Nadeau. Et allons avec ce dernier pour une tournée d'actualité.
Âgé de 78 ans, le cardinal Marc Ouellet a démissionné de la tête du dicastère des évêques du Vatican, évoquant, entre guillemets, la limite d'âge qui est de 75 ans. Il y a quelques jours, on apprenait que le cardinal avait reçu en 2020 une deuxième plainte concernant des allégations d'inconduite sexuelle.
De quoi, entre guillemets? T'es-tu en train de me dire que tu crois que ce n'est pas lié à son âge?
Circonstances de choses. On sait pas.
Je suis choqué.
On va jamais le savoir.
On ne le saura jamais. Qui donc pourrait imaginer que ce serait une autre raison? Voyons donc.
Rien ne me vient à l'esprit.
Après des grèves au sein de ST Lévis, des chauffeurs d'autobus scolaires de la région de Québec seront en grève lundi. Les parents des 6 000 élèves devront se trouver un plan B. La liste des centres de services scolaires qui seront touchés sont les suivants. Centre de services scolaires de la capitale, des navigateurs, des découvreurs et la commission scolaire centrale Québec. Après 6 ans de l'attentat à la Grande Mosquée de Québec qui a coûté la vie à 6 personnes, le porte-parole de la communauté musulmane de Québec, M. Labidi, a salué les actions du gouvernement fédéral et de la ville de Québec lors d'une cérémonie commémorative hier. Au contraire du gouvernement du Québec, à qui il a demandé de revoir la loi 21 et de reconnaître le racisme systémique.
Météo avec Virginie Simard.
Oui, donc à Québec, il fait présentement moins 18, ressenti moins 23. Et cet après-midi, il va faire moins 18, ressenti moins 16, avec quelques flocons de neige. Là, de...
Bouh!
Hey, je teste une bonne lancée, mais j'ai... En tout cas...
Je parlais pas de ton erreur de météo, je parlais simplement de la météo.
Non, il fait froid ce matin.
Oh! C'est désagréable. Très, très, très désagréable. Je pense que ça continue même là, pour le reste de la semaine, froid comme ça. C'est l'hiver.
On est janvier.
C'est
fin
l'hiver
janvier.
Pour vrai. Le mois de février a beau être le plus court, c'est le plus long dans mon cœur.
C'est beau, ça. Ben, oui.
C'est beau, mais pas en température dehors. Ben, elle est pas belle. Ah, je te dis. Ben, de la frustration avec l'hiver. J'aime l'hiver à peu près 3 jours et demi.
Ah, moi, j'aime pas l'hiver. peu importe, là. Ça commence. Oh non.
La première neige dans le coin de Noël, là, je suis donc en amour avec l'hiver, puis après ça.
Moi, je passerais l'hiver, puis Noël dans Floride.
Non, moi, j'aime trop le Québec, là. Le chaud m'énerve plus que le froid en général dans la vie. En fait, à l'extérieur, le froid m'énerve plus. À l'intérieur, le chaud m'énerve plus.
C'est pas facile.
C'est dur, ma vie, hein?
Ouais, non, c'est
ça. La circulation, presque rien à signaler. Là. L'accident du côté de Capitale en direction ouest qui est terminé. Mais c'est encore au rouge entre Bourg-Royal et Laurentienne. C'est le seul secteur à signaler présentement sur les routes. Virginie Simard, notre scientifique résidente, tu as décidé de t'attaquer cette semaine aux effets de la lecture sur le cerveau.
Oui. Allô? Oui, j'aime ça commencer tout le temps de même. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de littérature. En fait, plus précisément, de l'action de lire un livre, parce que, évidemment, je ne vais pas parler de Molière aujourd'hui.
Merci.
Donc, en novembre passé, sur un coup de tête, j'ai décidé de commencer à lire parce que j'ai réalisé que je perdais trop mon temps sur TikTok et mon téléphone. Donc, tant qu'à procrastiner mon étude, aussi bien m'éduquer et avoir l'air plus intelligente.
Oui, c'est surtout pour ça qu'on lit, là. C'est pour avoir l'air plus
avoir
intelligent.
L'air.
Et comme le déclin de la qualité de notre français est de plus en plus à la hausse, on l'a vu la semaine passée avec les résultats de l'épreuve uniforme de français, je me suis dit que j'allais essayer de convaincre les gens de lire plus. Donc, on commence. La lecture améliore votre expression orale et écrite. La lecture est le meilleur moyen pour obtenir un vocabulaire étendu que vous pouvez utiliser au quotidien. Cela est un avantage indéniable dans vos relations professionnelles et personnelles. Vous prenez plus confiance en vous et cela permet de vous affirmer dans votre vie de tous les jours. Pour ce qui est de notre cerveau, un organe qui est essentiel à la vie, hein, je vous apprends rien. Lire va préserver votre cerveau des effets du vieillissement en entretenant la mémoire. Donc, on peut se douter qu'il y a un rôle dans le lobe temporal.
Bien évidemment.
Et dans la formation hippocampique.
Bien évidemment.
Oui, ben oui. La formation hippocampique.
Je connais ça.
Ben moi, je fais des exercices hippocampiques tous les matins. Ouais,
c'est
réveillant.
Ça, c'est...
Je m'assure. Mais je délaisse peut-être un peu mon lobe temporal.
Moi, mon lobe temporal.
Parce qu'un va pas sans l'autre, mais c'est correct. c'est prouvé scientifiquement que sur le long terme, ça va limiter les troubles de la mémoire et potentiellement une maladie d'Alzheimer. La lecture peut aussi réduire le stress dans certains cas, puisqu'on le sait, hein, nous les étudiants, on est bien stressés. Lire avant d'aller se coucher, ça peut aussi réduire l'insomnie. Un autre petit flashback à la semaine passée. Donc, selon un article que j'ai lu de Radio-Canada en 2018, l'effet que j'ai trouvé le plus intéressant de la lecture, c'était que lire permettrait de vivre plus vieux. Des chercheurs de l'Université de Yale ont mené pendant 12 ans une expérience auprès de 3000 participants. Ils en ont conclu que ceux qui lisaient jusqu'à 3h30 par semaine avaient 17% moins de risque de mourir que ceux qui lisaient pas. Là, j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, parce que j'étais comme le monde qui lit a moins de chances de se faire frapper à traverser la rue. C'est pas ça que ça dit. J'allais lire la vraie article, et ça veut juste dire qu'il y a un haut taux de risque de mortalité suite aux 12 années qui vont suivre la ligne de base. C'est généralement constaté.
Attends, excuse-moi. Mortalité qui suit la ligne de 12 ans de base.
Le début de la lecture. Donc, si on parle d'une personne qui va être plus âgée, qui va mourir de vieillesse, là,
oui.
Par rapport à si elle a commencé à lire il y a 12 ans, ça va être plus long avant qu'elle meure.
OK. Donc, par cause naturelle.
Ouais. Oui. Puis, ou de développer des problèmes cognitifs au niveau du cerveau.
Okay.
Donc, on a constaté que ces proportions-là pouvaient grimper jusqu'à 20% pour les gens qui lisaient plus que 3h30 par semaine. Et que généralement, les gens vivaient 2 ans de plus que les non-lecteurs. Vaut mieux lire des romans que des journaux et des magazines. Inutile de seulement lire les éco-vedettes.
Les captions sur un TikTok, ça compte-tu comme de la lecture?
Ouais, non, c'est ça, ça compte pas, là. Puis ce sont les ouvrages de fiction qui auraient le plus d'effets positifs parce selon les chercheurs, ça expliquerait que le fait de lire des histoires fictives stimule plus le cerveau que
Les
histoires réelles. Ouais.
J'aurais cru biographie, peut-être ouvrage historique, essai. Fait que je vais jeter ma biographie de Barack Obama.
Ton lombaire frontal.
Mais ça dépend.
L'hippocampique.
Excusez-la. Si je peux pas brag mes mots scientifiques à radio. Là, vous dites, mais Virginie, depuis 3 mois, as-tu vu une différence sur ton corps puisque tu donnes ton corps à la science? Là, c'est sûr que je me suis pas mis à parler en alexandrin à me considérer plus intelligente, mais je lis pas nécessairement des essais philosophiques. Mais je lis pas des livres avec des images.
Félicitations.
J'ai vraisemblablement vu une différence au niveau de mon stress et de l'attention que je porte à ma grammaire et à ma syntaxe quand j'écris. Puis je trouve que ça me donne un petit côté sexy mystérieux quand je lis dans le bus au lieu d'être sur mon téléphone. À voir, ça va me permettre de pogner plus avec la jante masculine.
On te le souhaite.
Merci.
Mais non, je suis content que t'en parles parce que moi aussi, j'ai fait un peu. Je fais des blagues là, sur TikTok, etc., mais j'ai pris un peu la même décision que toi. Quand j'étais plus jeune, je lisais sans arrêt. Ça en était maladif, là. À l'école, la réunion par enfant. Ma mère se faisait pas avertir, genre, Félix, il dérange en classe. Félix, il lit en dessous du bureau pendant que je fais, que je donne mon cours.
Maintenant, c'est plus ça, là.
C'est vraiment, vraiment du loin. Je réalise que je me suis éloigné de la lecture avec les années. Et j'ai l'impression que la qualité de mon français en a écopé. J'ai recommencé à lire, là, récemment, justement, pour essayer de me remettre en contact, de redévelopper mon vocabulaire un peu plus, puis je la vois, la différence. Je la vois vraiment. Ça fait quelques mois que j'ai recommencé à lire de façon plus récurrente. Comme tu l'as dit, dépendamment là, des fois des œuvres de fiction très légères. Là, en ce moment, je suis dans la biographie de Barack Obama. Mais apparemment, je vais acheter aux poubelles. C'est pas assez pertinent. Je vais lire Harry Potter à la place.
Ben, tu peux lire ma biographie. Celle-là est correcte.
Parce que c'est purement de la fiction. Ouais, rien pour faire une vraie biographie, sinon.
Bon, là, il me reste... En terminant, je sais que j'ai probablement pas le droit de dire ça parce qu'on fait de la radio à Québec. Mais une des grandes choses qui a fait en sorte que je me suis mis à lire, c'est une émission dans une station de radio à Montréal. Et là, je sais que t'as peur de ce que je vais dire.
Le mot en M.
Je n'aimerais pas l'émission parce que je veux pas m'attirer d'ennui, mais c'est une émission qui se passe la journée, pendant qu'elle est encore jeune. Bon. Ils se sont mis à parler de la récipiendaire du prix Nobel de la littérature en 2022, que vous connaissez tous, hein?
Oui.
Annie Ernaux.
Ben oui, Annie Ernaux.
Et de son œuvre. Je suis donc allée à la bibliothèque, j'ai emprunté un livre. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait ça que quand j'étais arrivée au comptoir, j'ai dit « Bonjour madame, je peux-tu louer un livre? » Elle m'a dit « On n'est pas chez U-Walt, tu peux pas louer un livre, on l'emprunte. » Depuis, j'ai dévoré le livre Passion simple et je n'ai pas arrêté de lire des romans. Donc aujourd'hui, si je vous ai donné envie de lire, j'aurais réussi ma mission.
C'est très bien dit.
J'ai une question là-dessus. Quand est-ce que tu m'ordonnes mon livre?
Hey, ça fait 2 semaines que je vois PO et que je suis censée redonner son livre. Je l'ai lu,
bombe!
Là. Hey, tu me fais penser. Hey, j'ai pas le choix.
C'est pas supposé améliorer tes fonctions hippocampiques reliées à la mémoire?
Ça transforme la mémoire en court terme en mémoire à long terme.
Est-ce que la phrase que j'ai dit faisait du sens? Je tiens à demander.
Oui.
Oh yes, j'ai compris la fonction hippocampique. Non, mais c'est vraiment intéressant.
Ça fait pas
là.
Juste ça, l'hippocampe, là, mais...
Non, l'hippocampe...
C'est aussi un animal de mer.
Oui.
Oui. Non, effectivement, je pense que... On encourage tellement la lecture quand on est plus jeune, puis veux pas, on est encore... Je pense que même vous, là, c'est le cas. Quand vous étiez plus jeune, l'accès aux tablettes, aux cellulaires était encore beaucoup plus complexe.
C'était pas mal. Qu'on est la dernière génération là,
que jeune, vous aviez pas accès à des appareils électroniques immédiatement.
Moi, ça a été long là, avant que j'aie Internet. Là.
Moi, c'est
ça. Je lisais des livres quand j'étais jeune.
20 ans, c'était que j'ai eu mes premiers accès à des consoles, à un ordinateur, mais... Effectivement, on n'a pas nécessairement. Tu sais, je me fais régulièrement dire, vous avez grandi avec ça, et d'une certaine manière, c'est pas faux, mais j'ai appris en vieillissant. C'est pas comme je vois ma filleule qui est maintenant âgée de 10 ans. Là.
Non, l'iPad d'un mec.
Elle, depuis qu'elle a 4 ans, là, elle emprunte le sel de maman avec des jeux, elle a l'iPad, ça va vite, puis c'est utilisé très rapidement, c'est pas la même chose. Puis moi, tu vois, maintenant, c'était ça un peu, là. Je délaissais dans l'autobus là, d'avoir le livre. C'était plutôt le cellulaire. C'était plutôt autre chose que de simplement me consacrer à la lecture. Je prenais plus l'auto. L'auto, je vous l'annonce, là, c'est un petit peu plus complexe lire en auto que lire en autobus.
Tu peux texter au volant, mais pas lire au volant.
Ben oui, le policier ne me verra jamais. Voyons là.
la grosse brique, là.
Non. Et êtes-vous... Es-tu un lecteur, toi, Pierre-Louis?
Moi, j'ai... il y a un an, je lisais quand même. Je pense que j'ai lu. Mettons en 2021, je crois que j'ai lu 2-3 romans.
Okay.
Plus ou moins. Même 4, je crois.
Puis ça réduit.
Puis depuis 2022, rupture.
Totale.
Totale.
Mais non, moi j'ai lu comme 4 livres. Puis tu sais, le monde sont comme, mais c'est pas big, tu fais juste lire depuis 3 mois. Puis je suis comme, ben c'est 4 livres de plus que dans les 3 dernières années. Là,
ben,
c'est déjà
ça.
Bon. Puis honnêtement, j'ai honte de dire ça, mais la chose qui m'a vraiment fait allumer, c'est. J'étais tellement sur mon téléphone que je me suis dit, mais Virginie, tu ferais quoi si t'avais pas ton téléphone? Puis là, j'étais là, ah ben je lirais. Mais ça devrait pas être une pensée d'avoir que si on n'avait pas l'Internet, on lirait. Ça devrait faire partie de notre vie. Puis je suis clairement pas la seule là, qui se dit ça. Fait que si je peux m'humilier en disant que si j'avais pas Internet, je lirais.
Tu l'as bien fait.
Ouais.
Tu l'as très bien fait. Puis je pense que la chose aussi que tu as amenée, pour moi, est bien importante, je dors mieux.
Oui.
Parce que je dors juste avant de me coucher.
Je dors juste avant de me coucher.
Je lis juste avant de me coucher, effectivement. Merci de me rattraper.
Oui.
Mais ça me simplifie pas mal le sommeil depuis quelques temps. Je le remarque grandement, certainement. Là, je vais être profondément sombre. Honnêtement, j'étais un peu choqué à lire cette histoire-là. J'avertis tout de suite, c'est rare que je vais dire ça, mais on n'est pas une radio commerciale, fait, je pense que je peux me le permettre. Âme sensible, c'est le temps de changer de poste. La réalité peut être pas mal plus horrible que la fiction. C'est une histoire qui, honnêtement, pourrait sortir directement d'un film d'horreur et qui serait jugée choquante. Un jeune homme qui a été retrouvé mutilé après une nuit de torture dans un chalet de Lévis. C'est une histoire absolument absurde et un trio de jeunes qui auraient participé à ça a été maintenu et gardé prisonnier en attente d'un jugement, en attente du procès, parce qu'on jugeait les actes trop violents. Je vous raconte ça et j'insiste, gênez-vous pas pour changer de poste, là, je vais vous le pardonner, revenez dans 5 minutes, parce que c'est assez particulier. C'est 3 accusés. Puis j'excuserai pas si c'est le cas, là, les actes, mais reste que quand même 3 accusés qui auraient soumis à nuit de torture un jeune garçon voulant lui faire avouer qu'il avait violé l'ex-copine d'un membre des 3. Cette histoire-là peut être tout autant horrible, je le sais pas, j'ai pas le détail, on ira pas là. Reste que ce qui est arrivé est quand même terrifiant. Un jeune homme de 21 ans, Roberto Chartier-Vézina, qui est détenu justement là, en attente de son procès, est accusé d'avoir causé des lésions à la victime en commettant des voies de fait armées et d'agressions sexuelles. Lucas Lambert, 18 ans, Cédric Bérubé, 19 ans, qui font aussi face aux mêmes accusations. On aurait attiré la victime dans un chalet de fortune dans le secteur du chemin Petit-Saint-Jean à Saint-Étienne-de-Lauzon. C'est Yannick Bergeron dans Radio-Canada qui nous raconte ça. Alors qu'il était grandement intoxiqué. Une fois qu'il est arrivé, on l'a commencé à le déshabiller. On l'a frappé à coups de bottes à cap. Déjà, quelque chose d'assez fort. Aux côtes, aux jambes, au visage, on parle de coups très violents à la tête. Les personnes qui accompagnaient Roberto, parce que c'est surtout lui qui a fait la majorité des actes, les autres étaient plus présents et aidés, de ce qu'on a compris, pensaient qu'il était déjà mort à ce moment-là. Ils se disaient « ça a été trop fort, c'est sûr ». On a poursuivi en le marquant au fer rouge, à plusieurs endroits. On l'a imbibé d'huile qui sert pour les scies à chaîne. Et on l'a versé dans sa bouche pendant qu'il cherchait son air. Et on a lancé le briquet dans l'huile pour l'allumer. Et ses poils, ses cheveux ont pris feu. Il a dû se taper dessus pour réussir à faire éteindre le feu. Une scie qui a été appliquée à sa main pour tenter de le faire avouer. Une main qu'on a mis dans un étau qu'on va serrer. Et finalement, un manche à balai qui a été utilisé pour agresser sexuellement le plaignant. J'avais honnêtement de la difficulté à lire tout ça ce matin. Une nuit absolument horrible. Le trio qui a finalement discuté ce qu'on tue la victime pour éviter d'être dénoncé, finalement l'a abandonné dans un fossé. Une nuit d'horreur qui a été vécue. Le juge qui se montrait décontenancé parlait de quelque chose d'agressif au-delà de normal, d'où la raison pour laquelle Roberto Chartier-Vézina, même s'il n'avait aucun casier judiciaire auparavant, est maintenu en détention. Comme quoi, parfois, les pires histoires ne sont pas sur nos écrans de cinéma, mais bien dans la vraie vie. Honnêtement, c'est rare que je vais parler de faits divers, mais c'était tellement absurde et frustrant que ça valait la peine d'être mentionné. Je pense que cette histoire-là doit être connue parce que peu importe les circonstances autour de ça, même si il y a un crime qui a été commis par la personne, on a un système de justice pour ça, d'accepter ce genre de barbarie, ça n'a pas de place dans notre société. C'est honnêtement dégoûtant de lire quelque chose comme ça dans les journaux ce matin. Encore une fois, on va briser peut-être un peu le ton, là, essayer de se donner une chance pour terminer l'émission. Hubert Lenoir avec Dimanche soir sur les ondes de Chiz 94.3.
ça doit être bien. Bientôt la saison finale. Du living room jusqu'au living high. Sur le level, sur le low. Passe le level, courbe le dos. Place la séquence sur le jeu. Compte la monnaie.
Presque 22 sur les ondes de Chiz 94.3. Vous êtes à l'écoute de l'Allongée en compagnie de Félix-Antoine Audet, Virginie Simard et Pierre-Olivier Nadeau pour quelques minutes encore seulement. L'émission qui tire sur sa fin. Je n'étais pas en manque d'appétit hier. J'ai dévoré beaucoup trop d'ailes de poulet parce que vous l'aurez compris, je suis un amateur de football. Je ne m'en cache pas, le football de la NFL qui est un de mes grands trips. Et c'est les séries éliminatoires qui approchent le dernier droit. Hier, victoire des Eagles contre les 49ers de San Francisco. Victoire des Chiefs de Kansas City dans un match absolument palpitant contre les Bengals de Cincinnati. Ce qui veut dire qu'on a, mesdames et messieurs, un Super Bowl. Un Super Bowl qui sera composé des Chiefs contre les Eagles. Et j'ai vite réalisé, en parlant hors d'onde avec mes collègues, que j'étais pas dans une équipe de fanatiques sportifs. Mais c'est ce que je trouve encore plus intéressant, parce que le Super Bowl, c'est pas mal le seul événement sportif qui revient rejoindre les gens plus comme une tradition que comme événement sportif. Le Canadien de Montréal est en finale de la Coupe Stanley, c'est encore un événement sportif. Il y a plus de gens qui vont écouter... Mais il n'y a pas des gens qui n'ont rien à faire du sport, qui vont aller chez leurs parents, qui vont aller chez leurs amis pour se rassembler pour une soirée. Quelque chose qui est de plus en plus... c'est quelque chose de très fréquent et de normal. J'assume que vous avez des réunions de Super Bowl habituelles.
Je suis...
Non.
Ouais, c'est ça. Non.
Pas d'amis, pas de famille, rien. Vous, le soir du Super Bowl,
moi,
les rassemblements...
J'ai de la famille, mais ben loin. Mais quand j'étais plus jeune, c'était mon père est beaucoup fan. Vous dire, je fais juste parler de lui. Là. Mais il était très fan.
Bonjour, Papa Simard.
Pour vrai, je l'aime tellement. Il était très fan de. Ben, il a encore de football. Et que ce soit la Coupe Grey ou le Super Bowl, c'était d'aller chez mon grand-père écouter ça. Parce que lui aussi, mon grand-père était fan de football. Puis c'était un événement. Mais là, ça ne l'est plus parce que j'habite bien plus loin. Puis.
Mais ça, je comprends pas. De pas avoir un événement... D'aimer le football, c'est bien correct. Je comprends bien que je suis dans la minorité. La majorité du monde va pas écouter le Super Bowl pour écouter
mais là,
le football.
Je descendrai pas à Grenville à 3 heures de route pour aller écouter le Super Bowl. Là.
Non, mais j'ai des amis universitaires.
Es-tu là d'avoir des amis, moi?
C'est vrai que c'est l'air désagréable, pas à peu près. Plutôt, PO, ta famille est pas loin, là.
Ah, je sais, mais je fais partie... On fait partie de la minorité.
Ensemble? On fait ça, PO.
Ouais, c'est ça. Faites-vous une soirée à deux, là. Vous êtes amis, vous autres, là.
On va te redonner ton livre, puis on écoutera le Super Bowl.
C'est quand le Super Bowl?
C'est dans deux semaines. C'est le dimanche, pas le dimanche qui suit la fin des finales.
J'ai besoin de dormir le dimanche.
On travaille le dimanche, PO.
Je travaille.
Dans le pire, le dimanche, on écrit les chroniques à radio. On n'a pas le temps, là.
Hey, ça, je suis quand même sous le choc. Je m'attendais pas à ce qu'on parle de sport. C'était pas ça mon but de parler de Super Bowl, mais je m'attendais à ce qu'on parle d'ailes de poulet, puis de bouffe.
C'est vrai qu'il y a les ailes de poulet quand
De bouffe faite pour le Super Bowl, puis du spectacle à mi-temps. Vous rien, non, niette. Le Super Bowl, ça existe pas. C'est l'événement sportif le plus écouté au Canada.
Je m'entends.
Je dirais pas le dernier show, là. J'ai écouté le show d'Eminem, mais.
Eminem.
Un vrai connaisseur.
Mais le show de Maroon 5 m'avait quand même déçu.
Mais tu les écoutais?
Avant, je les écoutais juste le show.
Ben, j'ai écouté.
Genre, t'étais tout seul chez vous, puis tu changeais la télé pendant le show de la mi-temps.
Non, ben, j'ai réécouté sur YouTube.
Ouais,
c'est
ça. Souvent, c'est des extraits que moi, je voyais sur TikTok, là, de genre, comment ça s'est passé.
Hé, hey, là, je suis vraiment.
Mais
vraiment...
je pense que c'est juste moi, puis Féo, parce que je pense que c'est quand même.
La population du Québec veut.
Oui, là.
Je pense qu'il y a comme des. Non, je pense pas que les gens de mon âge. Mais mes amis, je pense pas qu'ils l'écoutent non plus.
Non,
mais c'est pas une question d'écouter
confiant.
Le football. C'est une question de.
Ben, tu sais, c'est sûr que.
Rassemblement familial,
quand t'es l'artiste. Qui fait le show de la mi-temps, tu dois être content. Là, c'est comme animer les Oscars, c'est comme gagner un prix. C'est le show de la mi-temps. Fait que c'est sûr que c'est big.
Je suis flabbergasté, honnêtement. Mais... là, je vous garantis que je m'attendais pas
très,
à ça.
Je suis pas très fan de musique américaine. Moi, j'écoute juste du québécois. Fait que... non, c'est totalement faux.
Hey, là. Rihanna, d'ailleurs, là, on en parle, qui fait le show de la mi-temps cette année. Ce qui risque d'être assez
tu nous l'as appris il y a quelques secondes, justement.
Ouais,
oh, oui, mais ça risque d'être tout un show. J'en reviens pas.
Désolé.
Vous, ça fait pas partie
la
de
la journée que ça sera Paul McCartney, je l'écouterai, là.
Oui, mais c'est le fait que t'es pas de rassemblement. C'est pas le fait de l'écouter ou non,
bon,
au final. Là. Non, mais moi, j'étais avec ma famille. Écoute, je t'aime bien, Virginie, mais je pense qu'il trouverait ça un peu étrange. Je vois ça, c'est la fille avec qui je fais de la radio une fois par semaine, le lundi matin. Là. Bonjour. T'es à Boischatel, voir ma belle famille. Mais OK, je suis vraiment, vraiment, vraiment surpris de savoir.
OK, c'est le gros événement. Là. C'est pas juste que t'es avec deux, trois personnes. Là.
Ben, je veux dire, c'est ma belle famille au complet. Là.
Ah, oui.
Oui, on est quelques-uns. Là. C'est pas une grosse famille, ma belle famille.
Temps,
mais...
J'ai passé le 25 tout seul, moi, là. Fait que c'est normal que le Super Bowl, je le passe tout seul aussi.
Ouais, mais là, c'est effectivement, si tu passes Noël tout seul, le Super Bowl, j'assume que ça va passer en deuxième, là. Ça, c'est relativement normal. Mais c'est aussi surprenant, le fait que t'aies passé Noël tout seul.
Ben, je travaillais, hein. Les scientifiques, on n'arrête pas.
En même temps, je travaillais, oui. Ça faisait. C'est le premier Noël que je passe avec ma famille, moi aussi, parce que ça faisait deux ans que je travaillais durant Noël à cause de la radio.
Ouais.
Donc, je te comprends un brin là-dessus. Bon, ben, tout ça pour dire, moi, je pensais qu'on allait avoir une belle discussion sur les traditions du Super Bowl qu'on avait chez nous. Moi, j'ai bien hâte de manger des ailes de poulet, puis de me réunir en compagnie de gens que j'aime, puis de regarder du football, puis de regarder un show de la mi-temps, puis de regarder des pubs qui sont comiques. Mais apparemment, que je suis tout seul sur la planète Terre.
Les pubs, je te donnais un poisson drôle.
Mais oui, mais t'es écoute pas! Arrête-moi ça!
Oh, mais là,
t'es pas sur YouTube après. Non.
Si les pubs, y a pas le M&M, madame, moi je l'écoute pas.
Oh my god, on va prendre ça là-dessus.
Là, vous m'avez frustré, honnêtement, je pensais pas finir fâché. Moi, j'étais comme, on va finir sur une belle, histoire sympathique.
Mais non, mais moi, je veux savoir l'anecdote de Bernard Drainville.
Ah, hey, ce sera pour une autre histoire, parce que j'ai plus le temps, honnêtement.
Ok, ça prend du temps à raconter ça.
Oui, c'est quand même une bonne petite anecdote de comment j'ai rencontré Bernard Drainville alors que je travaillais au FM 80. Donc, on était techniquement collègues, mais c'est toute une histoire. C'est déjà la fin de l'allongée. Si vous voulez cette histoire de Bernard Drainville, ben, savez-vous quoi? Il faut pouvoir être là la semaine prochaine.
Ouh.
Virginie Simard, scientifique résidente, merci.
De rien.
Pierre-Olivier Nadeau, un peu plate, qui écoute pas le Super Bowl, merci.
À la semaine prochaine.
Grand journaliste.
Oui, grand journaliste, je te niaise, bien évidemment. Heureux d'avoir fait ce show-là avec vous. On se retrouve du côté des Affamés, l'autre émission d'information de Chiz. C'est à midi, ne manquez pas ça, avec Sarah Manzano, Mégane Asselin et Laetitia Z sur les ondes de Chiz 94.3.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Chiz 94.3.
Pour entendre la dernière chanson des Shirley, savoir ce qu'Olivier Artaud fait en théâtre ces temps-ci et être au courant de tous les événements organisés par le collectif Ramen, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. T'as aucune idée de qui je viens de te parler? Raison de plus pour ouvrir ta radio de 16h à 17h30 tous les jours de semaine. Chérie!